cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Alexandre Radvicki.
Bonjour.
Vous êtes le directeur scientifique de la Fondation Palazzetto Bruzzani, centre de musique romantique française qui a déjà presque qui a 3 ans passé déjà, créé donc en janvier 2008. Une fondation donc qui se trouve dans un palais vénitien, dans le cadre peut-être paradisiaque, on pourrait dire. Vous allez nous parler un peu de ce palais qui a été complètement restauré et donc qui abrite cette fondation. On va un peu évoquer donc tout ça. On va évoquer évidemment un peu le programme de cette troisième saison. Alors parlez-nous justement de cette fondation, peut-être du lieu déjà. Qu'est-ce que c'est que ce Palazzetto? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qui l'a restauré et pourquoi?
Alors vous disiez à l'instant que le Palazzetto Venise est une ville paradisiaque, mais je dois dire que le projet lui-même est un projet paradisiaque pour les gens qui aiment ce répertoire, puisque en 2007, la Fondation Bru, créée par le docteur Nicole Bru, l'ancienne présidente des laboratoires UPSA, a décidé d'investir dans un palais vénitien, de le restaurer et d'installer dans ce palais une activité culturelle utile. Et c'est vrai que Madame Bru a toujours milité dans sa vie professionnelle pour l'innovation et l'utilité des choses. On aurait pu, dans un palais vénitien, faire un hôtel, ou on aurait pu faire, en restant dans la musique en tout cas, des concerts Chopin, Liszt ou Schumann. Madame Bru était très sensible à une proposition qu'on lui a faite à plusieurs en octobre 2006, de finalement prendre le relais du Centre de musique baroque de Versailles sur le répertoire du 19e siècle français, qui reste à mon sens complètement à redécouvrir, hormis 2 ou 3 œuvres de Berlioz et de Debussy qu'on connaît. Et finalement, l'installation vénitienne de ce centre de musique romantique française pourrait surprendre. On s'attendrait plutôt à mettre ça dans un immeuble haussmannien à Paris. Mais c'est que l'idée du centre, le projet, est d'œuvrer à la diffusion de ce répertoire. La diffusion, entendez par ce mot, le fait de faire jouer cette musique à l'international et de manière régulière. Et c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte dans l'installation de ce projet à Venise que Venise voulait dire pour tous les gens de la Terre la même chose et avait ce pouvoir d'attraction que n'a pas peut-être une autre ville ailleurs dans le monde, fût-elle Paris ou New York, et que finalement proposer ce projet à Venise permettait d'intriguer, d'intéresser et puis de proposer aussi aux gens un voyage, puisque ce sont beaucoup des artistes étrangers, pas seulement français d'ailleurs, qui viennent à Venise. Et ce jeu de la diffusion finalement a aussi un retour ensuite dans l'autre sens, puisque nous avons un budget complet qui est affecté à la reprise des concerts vénitiens ailleurs dans le monde.
Oui, ce qu'il faut préciser, qu'évidemment toute l'activité du centre autour de la fondation et autour de la fondation ne se passe pas exclusivement à Venise.
Pour vous donner une idée en termes de quantité, l'année prochaine nous aurons dans cette troisième saison 297 concerts soutenu ou organisé, pour certains complètement, pour d'autres c'est simplement un appoint en termes de partenariat. Et sur ces 297 concerts, il n'y en aura que 40 à Venise, donc 250 quasiment à l'étranger, jusqu'au Canada, en Chine, en Corée, et bien sûr beaucoup à Paris, puisque cette musique française, il faut aussi la faire connaître avant tout à ceux qui la jouent le moins, et ce sont bien sûr les Français.
Est-ce que historiquement, il y avait un rapport entre la musique et ce palais? Alors, j'ai cru comprendre une anecdote que Mozart y aurait séjourné.
Oui, alors ça, c'est je,
ça,
à
c'est
mon
peut-être
avis,
pour le côté un peu marketing.
À mon avis, c'est surtout l'agence qui a vendu le palais qui a utilisé cet argument-là. Il n'est pas impossible, cela dit, que Mozart, lors de son séjour à Venise en 1771, ait joué dans ce palais, puisque la salle appartenait à une famille très riche, la famille Zanè, qui donnait effectivement des réceptions, des bals et des concerts privés dans ce palazzetto. Et on peut tout à fait imaginer que cette famille, qui était l'une des plus puissantes de Venise, se soit amusée à programmer le jeune Mozart, enfant prodige, venu de Salzbourg, dans ce palais. Alors, rien ne le prouve, à vrai dire, concrètement. On dit aussi que Casanova, il serait mort, alors qu'on sait très bien où il est mort et que ça n'est pas là. Mais c'est surtout amusant d'entendre les gondoliers, lorsqu'ils passent sous les fenêtres du Palazzetto, raconter parfois en français, donc on comprend très bien de quoi il s'agit quand on est français comme moi, des histoires absolument rocambolesques. Mais si vous voulez, derrière tout ça, ce qui est amusant, intéressant et peut-être plus intéressant, c'est de se dire qu'autour d'un palais vénitien de 1697, on aime créer un mythe, et justement faire venir des artistes pour jouer cette musique qui n'a finalement rien à voir avec l'architecture dans laquelle ils la jouent à Venise. Donc, c'est justement mythifier un peu ces concerts que l'on programme et leur donner une aura qu'ils n'auraient pas si on les avait programmés ailleurs.
On peut imaginer, comme vous l'avez souligné, l'attrait, l'intérêt, le côté envoûtant que peut avoir pour des non-vénitiens, pour des non-italiens, effectivement, le lieu. Comment est perçu là-bas, au niveau local, par les vénitiens eux-mêmes, cette fondation?
Alors, je dois vous préciser que la fondation, vous la citiez avec le juste accent tout à l'heure, est une fondation italienne, donc de statut et de droit italien. La majorité de l'équipe est italienne et nous avons notamment parmi nos collègues des Vénitiens pur souche. Et donc, nous faisons tout pour nous intégrer dans le tissu local. L'idée du Palazzetto n'est absolument pas d'être ce qu'on pourrait imaginer dans d'autres cas, une espèce de pied-à-terre un peu élitiste d'artistes ou de mécènes français qui passeraient là de temps en temps pour repartir aussi vite dans d'autres pays. Et c'est pour cela que nous avons finalement deux saisons, j'allais dire deux niveaux d'activité, l'un n'étant pas plus important que l'autre. C'est d'une part une saison purement vénitienne, organisée en trois festivals, et nous communiquons beaucoup auprès de nos voisins, auprès des écoles, auprès des habitants de Venise sur la possibilité d'avoir des abonnements à l'année, etc. Donc c'est pour les gens qui sont là, hein, puisque quand on est touriste pour 10 jours, on ne prend pas un abonnement à l'année au Palazzo a priori. Et puis nous avons cette saison parallèle, la saison internationale, qui englobe les concerts vénitiens mais qui se passe ailleurs. Donc si vous voulez, pour répondre précisément à votre question, nous sommes très attentifs, surtout en ces premières années d'existence, d'exister pour les Vénitiens, pour les Italiens, peut-être même avant d'exister de manière plus générale pour les autres.
Le financement est essentiellement de fonds privés ou est-ce qu'il est...
Il est exclusivement de fonds privés et j'allais dire que c'est là la grande chance de notre activité, de ce centre de musique romantique française, puisque Madame Bru, via cette fondation qu'elle a créée en 2005, la Fondation Bru, dote annuellement le Palazzetto de quoi le faire vivre et de quoi lui permettre d'envisager des projets sur le très long terme. Donc c'est vrai que dans certains partenariats, actuellement en 2016 ou 2017, on est déjà capable d'assurer que notre participation ne changera pas, en tout cas a priori.
C'est plutôt une belle création, on pourrait dire, parce qu'en 2008, dans une période où, depuis quelques années, les budgets, alors évidemment, vous l'avez dit, c'est du fonds privé, où le mécénat bouge, où les investissements publics en matière de culture ont plutôt tendance à s'évaporer plutôt qu'à grossir. Ce genre d'entreprise, et on pourrait dire, pour utiliser un mot un peu facile, un peu pointu, quelque chose vraiment sur une période et sur un type de musique assez, assez précis, c'est plutôt assez osé et assez magique finalement.
Je peux même préciser que non seulement c'est une chance unique pour ce répertoire de pouvoir exister, mais qu'il aurait été facile pour quelqu'un comme un mécène du niveau de Madame Bru d'imaginer un projet culturel, mais un projet rentable. Si vous voulez, quand on expose des œuvres d'art, par exemple, on sait qu'elles prennent de la valeur, on peut les revendre, on peut, si vous voulez, lancer tout un marché, un commerce autour de sa collection. Quand on fait de la musique, c'est pas possible. Vous faites un concert d'orchestre qui vous coûte 60 ou 100 000 euros, vous avez des recettes qui n'en sont jamais plus du 8e ou du 16e dans certains cas, et si vous voulez, vous êtes de toute façon en déficit comme le sont les grandes institutions qui, sans le secours de l'État, l'Opéra de Paris ou d'autres, ne pourrait pas exister, puisque toute cette culture-là se fait sur du déficit systématiquement.
Comment justement c'est fait un peu justement l'aspect pointu, le choix précis de ce répertoire, de cette période précise de l'histoire de la musique au cœur donc, de cette fondation?
Alors si vous voulez, moi j'ai l'impression, et plus le temps passe, que c'était une évidence. Il y a 150 ans de musique française qu'on ne joue absolument pas. Et pourtant...
Comment vous l'expliquez? Je peux parler peut-être aux musicologues.
Oui. Alors, c'est une corrélation de beaucoup de choses connexes. Chacune prise isolément ne suffit pas à l'expliquer, mais je dirais qu'il y a d'abord un problème d'édition de ce répertoire très protectionniste. Quand les Allemands avaient Peters et Breitkopf, quand les Italiens comme Puccini ou Verdi avaient Ricordi, en France, finalement, on avait tellement d'éditeurs, ça date de l'Ancien Régime, cette affaire-là, mais tellement d'éditeurs qui se faisaient la guerre, chacun étant très protectionniste avec son répertoire, on a tout un problème de la commercialisation, de la diffusion des partitions, qu'elles soient de Massenet, de Bizet, de Gounod, de Berlioz ou d'autres, qui fait que le marché français n'était pas du tout à la hauteur en termes d'édition au XIXe siècle du marché allemand et italien. Et puis, je dirais que la France a profité longtemps de sa centralisation depuis le siècle de Louis XIV, mais qu'au XIXe siècle, le grand problème, c'est qu'on s'est mis à écrire des œuvres sur des formats typiquement parisiens, et pour ne prendre qu'un exemple, c'est celui du grand opéra de Meyerbeer ou à Lévis, qui fait qu'on a écrit des œuvres pour des salles très précises, voire même pour des artistes très précis, qu'on ne trouvait pas ni en province française, ni dans d'autres pays. Et autant l'opéra de Vivaldi ou l'opéra allemand du premier XIXe siècle voyageait, circulait facilement, autant le gabarit parisien des grands orchestres symphoniques et des grands opéras français des années 1830-40 n'était absolument improgrammable dans d'autres salles que l'Opéra de Paris. Et donc ce répertoire finalement coûtait tellement cher à l'étranger, et alors en province on n'en parle même pas, que soit il était mal joué et donc ça a découragé de le reprendre et ça l'a fait oublier et critiquer, soit il n'était pas du tout joué, et c'est le cas de certaines œuvres qui ont eu des créations parisiennes et qui n'ont jamais existé en dehors de leur cadre très précis d'une institution à un moment donné.
Là, vous avez effectivement cité quelques noms de compositeurs qui, eux, ont encore la chance d'être encore connus, même si, comme vous l'avez dit, toutes leurs œuvres ne sont plus jouées, pas ou plus jouées du tout. Mais la Fondation s'intéresse aussi, j'allais dire, aux oubliés complets. Je crois que cette année, il y aura notamment un festival autour de Théodore Dubois. Pour prendre juste un exemple comme ça, il y a, sur ses 150 ans, est-ce que la Fondation veut vraiment, d'une certaine manière, balayer ce siècle et demi et vraiment voir l'intégralité de la matière musicale de cette période, avec évidemment ses chefs-d'œuvre, ses musiques peut-être plus anecdotiques mais intéressantes, et comment justement on fait un peu le tri dans tout ça quand on se retrouve avec la découverte des partitions. J'imagine qu'il y a tout ce travail effectivement de découverte au quotidien.
Alors on a promis à Madame Bru et à la Fondation Bru qu'il y en avait pour des années et des années, des décennies sinon des centaines d'années, donc il faut aussi tenir cet engagement. C'est vrai que ce qui était intéressant pour nous, évidemment on a un peu de Berlioz, de Debussy, de Ravel, si tant est que Ravel soit romantique, ça on peut en reparler, parce qu'il faut quelques produits d'appel sur une affiche, sinon vraiment vous faites ça le vide. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est deux autres niveaux. C'est d'une part les niveaux des compositeurs comme Bizet, Gounod, et quand vous dites que ce sont des gens dont on ne connaît pas tous, les gens haussent les épaules, mais finalement pour Bizet, quand vous avez cité Carmen, ensuite c'est assez difficile de faire dire aux gens qu'il y a des opéras Djamilé ou d'autres qui mériteraient d'être joués. Et puis il y a ces compositeurs comme Dubois, comme Félicien David, comme Théodore Gouvy, comme je pourrais en citer des dizaines, dont on connaît le nom parfois. Théodore Dubois, on le connaît pour son traité d'harmonie. On ricane un peu en pensant que c'est un théoricien fastidieux qui n'a rien produit. Et puis quand on se rend compte qu'il y a plus de 600 œuvres et qu'elles sont vraiment d'un niveau, d'une ambition d'ailleurs, en termes de durée, en termes d'écriture, en termes d'effectif orchestral importante, et en plus en termes de résultats artistiques, il y a vraiment une personnalité, là les gens d'un seul coup vous regardent autrement. Alors c'est vrai que pour nous, dans les premières années, il s'agit surtout de pointer du doigt les compositeurs qu'on connaît de nom, dont tout le monde, dans le milieu de la musicologie bien sûr, connaît Théodore Dubois, mais personne n'en connaît une seule note. Et finalement c'est ces gens-là sur lesquels nous allons travailler en premier. Parce qu'après évidemment, si je vous cite Fernand de la Tombelle ou Paul Vérange de Lanux, pour prendre des noms en particules, c'est des compositeurs qu'on n'a même jamais entendus, mais qui ont pourtant eux aussi laissé des corpus vraiment importants. Alors ça, ce sera peut-être dans un troisième temps, quand on aura été crédible sur Dubois, Palladi, les Gouvy, qu'on s'attaquera à de la Tombelle et Paul Vérange de Lanux.
Est-ce que le but aussi, c'est de faire un peu le tri dans tout ça, c'est-à-dire de ne pas tomber dans l'excès, j'allais dire, d'archivage, de savoir vraiment et de faire la part des choses entre vraiment ce qui est musicalement intéressant et ce qui est vraiment très 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 anecdotique?
Alors le premier travail qui est le plus important et le plus long, c'est bien entendu de passer des heures devant un piano à essayer de réduire à vue des partitions d'orchestre qui n'existent pas en réduction piano, en se disant que parfois l'harmonie est enrichie, mais c'est parce qu'on s'est trompé et que c'est pas que le compositeur l'a voulu. Mais je dois quand même vous dire que la meilleure surprise que j'ai depuis plusieurs années en travaillant sur ce répertoire, et qu'on, je suis pas le seul à l'avoir d'ailleurs, c'est que on se retrouve jamais avec une quantité faramineuse de déchets pour une œuvre qu'on a sauvée au bout de 3 jours de déchiffrage. En ce moment, on travaille sur Félicien David, enfin c'est pour dans les années qui viennent, et là j'ai passé quelques heures à la Bibliothèque nationale, et finalement du côté côté de la pile des mauvaises œuvres de David, il n'y en avait pas beaucoup pour le moment. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Au contraire, finalement, Félicien David, on le connaît pour une œuvre, Le Désert, qui est une autre symphonie orientalisante. Et je me rends compte que Le Désert est de loin pas du tout la meilleure œuvre de Félicien David. Donc vous voyez aussi qu'il y a peut-être l'histoire à réécrire, parce que pour Saint-Saëns, pour Bizet, pour Gounod, on a retenu des choses dont je ne suis pas certain qu'on ait bien retenu la bonne chose ou la chose la plus marquante.
Vous avez dit, j'ai passé plusieurs heures à la BNF. Alors racontez-nous un peu cette facette Indiana Jones de votre travail.
Oh ben, si vous voulez, les listes de compositeurs, on les a dans les grandes listes d'élèves du conservatoire, notamment les listes du prix de Rome au XIXe siècle. Moi, j'ai des listes de centaines de compositeurs français avec des noms dont beaucoup me disent quelque chose parce qu'on les a vus passer dans des articles de presse ou autres. Et puis, c'est très simple, si vous voulez. On est plusieurs à aller à la Bibliothèque nationale. On se donne rendez-vous un vendredi matin ou un samedi après-midi. et on se dit, ben voilà, aujourd'hui, on va faire le tiroir Paladil. Donc, vous allez à votre tiroir Paladil, vous prenez vos petites fiches à remplir, et puis vous regardez ce que contient la collection de la Bibliothèque nationale, qui n'est pas exhaustive.
Je vais vous demander, est-ce qu'il y a un réseau avec des lieux où on sait qu'en allant chercher, en allant puiser, oui. on peut trouver Alors, des pépites en dehors même du territoire, en dehors de la...
Alors, on pense toujours à la Bibliothèque nationale, mais il faut savoir que pour les grandes collections françaises, il y a finalement plus de partitions à Washington ou à la British Library qu'à la Bibliothèque nationale, hein, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs ou de fonds qui sont partis pendant le début du XXe siècle à l'étranger. Donc, ce n'est pas forcément à Paris qu'on va trouver le plus de choses. Mais enfin, déjà, j'allais dire, épuisons déjà la Bibliothèque nationale et il y a de quoi faire. Et si vous voulez, je me souviens d'il y a 2 ans pour les cantates de Saint-Saëns qui, depuis, sont sorties en disque maintenant, les cantates du Prix de Rome de Saint-Saëns. Quand vous allez au tiroir Saint-Saëns, la première fiche qu'on vous propose, ça s'appelle Manuscrit inédit. Et c'est écrit noir sur blanc, hein, si vous voulez, c'est écrit depuis un siècle sur cette fiche. Et là, derrière, vous voyez Ivan Noé, Le Retour de Virginie, cantate pour telle ou telle exposition universelle. Vous n'avez qu'à sortir la partition, vous montez dans les studios avec piano de la Bibliothèque nationale et puis vous jouez. Et pour vous donner un exemple, hier, voilà, nous étions au tiroir Félicien David, nous avons sorti Le Jugement dernier, L'Eden, Christophe Colomb et Le Désert. On s'est retrouvés 5 minutes après avec la partition de Christophe Colomb devant un piano et avec mon iPhone, j'ai chronométré, donc je peux vous dire que ça fait très exactement 1h25 en 4 parties pour 3 solistes, chœur et orchestre. Et je pense que c'est une œuvre qui vaut vraiment le coup d'être remontée et d'être enregistrée. Et donc, si vous voulez, le travail est quand même beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Il ne s'agit pas d'aller agiter des squelettes dans des greniers pour arracher à des familles de descendants des manuscrits qui ne veulent pas montrer. Et il y a beaucoup de choses qui sont faciles d'accès. Simplement, on tourne toujours sur les mêmes compositeurs. Et je ne suis pas certain que la musicologie rende parfois justice aux oubliés, parce que finalement, il faut reconnaître que quand on est en université, c'est beaucoup plus sexy de travailler sur Bizet, Gounod et Saint-Saëns que de travailler sur Paladil, Guiraud et de La Tombelle, parce que ben, on parle plus dans les colloques, on écrit plus de livres si on travaille sur Bizet ou sur Gounod. Mmh. Donc si vous voulez, c'est un cercle vicieux qui fait que la musicologie n'aide pas la musique rare à être valorisée. Et alors comment voulez-vous que les artistes ensuite aient connaissance de ce...
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que justement les artistes, les musiciens aujourd'hui, depuis la création de cette fondation en 2008, et des noms, quelques-uns que vous avez cités tout à l'heure, qui réapparaissent ou même qui apparaissent presque pour la première fois aux oreilles de certains, est-ce que ça intrigue et ça attire de nombreux musiciens? Alors évidemment, il y a ceux qui participent aux nombreux concerts dont on pourra éplucher le programme en détail sur Qobuz qui renverra vers votre site. Est-ce que vous sentez justement, côté musicien, une planète un peu réceptive à toutes ces découvertes, à toutes ces...
Alors d'abord, je dois dire que le Palazzetto ne prétend pas être une idée née de rien et qui appartient à une poignée de personnes. Au contraire, je crois que le Palazzetto a été créé parce que depuis déjà une vingtaine, voire une trentaine d'années, et d'ailleurs, j'allais dire depuis le renouveau du baroque en France, il y a une curiosité pour les répertoires rares en général. Et il y a des gens maintenant qui travaillent depuis des années sur Onslow, sur Herold, sur Meyerbeer et d'autres. Il y en a même d'ailleurs qui, à l'heure où nous sommes, sont morts en ayant travaillé pendant des décennies entières sur ces compositeurs. Je dirais surtout que ces gens n'ont jamais profité d'un réseau vraiment organisé pour faire valoir leurs recherches, leurs motivations, leurs envies, leurs productions littéraires, musicologiques ou voire musicales dans le cadre de certains CD. Et que chacun a œuvré par la force des choses dans son coin, si je peux dire. Et finalement, il y a des disques dont personne n'est au courant parce qu'ils ont été publiés par un petit label qui n'est pas bien distribué, qui n'a pas eu le soutien de communication d'autres. Mais donc, pour nous, si vous voulez, non seulement on s'appuie sur toute une partie d'une vie artistique qui travaille déjà sur ce répertoire depuis des années. Et puis, par ailleurs, je vois souvent les gens dans les discussions qu'on a avec des artistes qui ne connaissent pas du tout ce répertoire, on les amuse. En fait, la première chose, c'est qu'on les intrigue en les amusant. Et quand vous leur parlez comme ça, pendant 3, 4, 5 mails, et ensuite en de visu de Théodore Dubois, ils sourient. Et puis finalement, par moments, vous sentez qu'ils se disent un peu comme ça par pitié pour vous. Ils disent, bon, allez, envoyez-moi une partition, je vais voir ce que ça vaut. Et c'est là que tout se joue, parce qu'ils... On essaie de s'arranger pour qu'ils nous trouvent touchants et sympathiques dans notre démarche. Et finalement, tout ça est aussi une aventure humaine. Et finalement, quand la partition arrive et qu'ils se mettent au piano, au violoncelle, au violon, ou qu'ils chantent ce qu'on peut leur envoyer, là, ils se rendent compte que finalement, tout ça n'est pas juste le plaisir de brasser de la poussière et puis qu'il y a autre chose. Et la plus belle récompense, si vous voulez, c'est des artistes dont vous sentez très bien qu'ils s'engagent dans un projet sans y croire complètement et que finalement, ils préféraient faire du Brahms ou du Beethoven, mais que finalement, au bout du compte, eux-mêmes sont surpris du résultat et de ce qu'ils ont pu tirer de la partition qu'on leur a envoyée.
Oui, parce que j'imagine que même pour vous, qui êtes dans la première étape, on va dire, de cette grande saga, le but quand même... principal, c'est que cette musique soit jouée, j'imagine, d'une certaine manière, que les gens puissent entendre du Pierné, du Alcan, etc.
Oui, mais alors ce qui est fondamental, c'est qu'elle soit bien jouée. Alors bien, c'est très subjectif, ouais. Et puis tout le monde n'a pas le même niveau, et il faut tout pour faire un monde. Mais si vous voulez, bien jouer, ça veut dire on y croit, de l'enthousiasme, et pas ça nous fera un concert de plus, ça nous fera venir à Venise. Et donc le plus dur aussi, c'est de se dire parfois il vaut mieux renoncer à un projet ou à une œuvre qui ne sera peut-être pas jouée tout de suite, parce que finalement on sent que les interprètes auxquels on l'a destinée ne sont pas prêts à vivre l'aventure, n'en ont pas envie. Et si vous voulez, là aussi, on est très clair. Nous, on va évangéliser dans une certaine mesure, mais il y a tellement de gens qui sont partie prenante de l'aventure dès à présent que si vous voulez, je ne sais pas, récemment, je rencontrais un quatuor à cordes jeune, mais très connu. Et puis, ben voilà, très bien, ben Bartok et Shostakovich, c'est ça qui les fait vibrer. On s'est quittés en bons termes et je leur ai même offert le café en leur disant que résolument, ni Gouvy ni Félicien David n'entraient dans leurs cordes, si je peux dire. Et il n'y a pas de brouille ni de fâcherie, si vous voulez. Mais c'est important d'être honnête dans ce genre d'aventure, sinon ça ne fonctionne pas à l'arrivée.
Est-ce que sur tout cet aspect de travail musicologique, ça veut dire qu'il y a des collaborations, des échanges avec... des universités, d'autres centres de recherche, comment ça fonctionne? Il y a vraiment un réseau, même les conservatoires?
Alors le principe du Palazzetto, c'est un peu lié aussi à la taille du lieu qui n'est pas si grand, c'est que beaucoup de choses sont organisées en partenariat, à tous les niveaux. Au niveau de l'édition avec un partenaire principal qui est Symétrie, au niveau de la recherche, puisqu'en fait nous n'avons pas de chercheurs en interne à temps plein qui sont toute la journée en bibliothèque. Bon, certaines personnes de l'équipe le font, et je vais moi-même régulièrement mettre la main à la pâte. D'ailleurs, c'est la partie la plus captivante du métier, si je puis dire. Mais nous sommes surtout à l'écoute de jeunes musicologues, de jeunes doctorants qui viennent nous voir. L'un récemment me disait « Je viens de retrouver le Requiem de Gounod », l'autre me disant « On vient de retrouver la cantate du Prix de Rome de Massenet ». Bon. Et si vous voulez, c'est important pour nous de devoir forcément être à l'écoute de l'extérieur, à tous les niveaux. Aussi bien, d'ailleurs, je n'ai pas parlé des disques, mais on n'a pas de collection en interne. On travaille avec des labels, beaucoup.
Oui, différents.
Mais l'idée, si vous voulez, ce n'était pas d'ajouter à la concurrence actuelle pour faire péricliter le disque classique, mais au contraire, de mécéner d'une certaine manière toutes ces aventures. Mais donc, pour nous, travailler avec l'extérieur en partenariat, ça nous oblige, si vous voulez, d'une part, d'être toujours dans une activité, de relancer les gens, de les contacter, de les rencontrer, et puis d'être à l'écoute des actualités. Parce que finalement, ça nous oblige à savoir que voilà, les nouvelles recherches de telle université portent sur tel sujet, que tel nouveau label va lancer une série sur le piano, la musique de chambre, je ne sais quoi. Et finalement, ça nous permet de ne pas nous endormir trop précocement sur des lauriers un peu confortables de trois personnes qui travaillent pour eux-mêmes en interne et avec leur seul objectif personnel, j'allais dire, de programmation et de travail, en fait.
Sur la partie donc musique vivante, sur la partie concert, il y a en général trois temps forts, c'est ça, deux festivals, et ensuite un salon romantique, c'est comme ça que sont axés chaque saison. Parlez-nous un peu justement donc de ce qui attend les mélomanes pour la saison 2011. Déjà.
Alors cette saison va, comme vous le dites, continuer à développer le principe de trois festivals. Deux sont thématiques et changent tous les ans. Et le troisième, à l'hiver, en février, s'appelle le Salon Romantique. S'appelle tous les ans pour le moment le Salon Romantique, avec un principe de carte blanche autour de la musique de chambre romantique française. Ce qui veut dire que dans ce festival d'hiver, on peut avoir aussi bien un pianiste qui joue du Méhul et du Debussy dans le même programme. Et on aura... finalement comme seule ligne conductrice une programmation éclectique, un peu sur le principe, si vous voulez, du carnaval, puisque c'est au moment du carnaval à Venise, un carnaval, un florilège de musique romantique française avec des pièces rares, d'autres qui le sont moins.
La virtuosité qui va commencer, donc
alors,
le premier, voilà.
Premier festival. Les deux autres festivals sont thématiques, avec là aussi, bon, c'est pas dit comme ça dans nos conférences de presse, mais c'est quand même tacitement ce que l'on essaye chaque année, d'avoir un thème un peu grand public et un thème un peu plus musicologique pour faire valoir l'aspect redécouverte et puis centre de recherche scientifique, peut-être qui peut sembler plus élitiste aux yeux de certains. Alors on commence l'année prochaine avec le festival grand public qui s'appelle Virtuosité avec un S, hein, puisqu'on va essayer de démontrer qu'il y en a plusieurs. Alors évidemment, c'est la fin de l'année Liszt, donc il y aura des clins d'œil réguliers à Liszt, mais aussi à ses contemporains moins connus comme Thalberg ou Alcan au piano, par exemple. Mais l'idée de ce festival, ça va être... Alors évidemment, on aura des concertos, des symphonies concertantes, des choses très... démonstrative, mais l'idée, c'est aussi de montrer que la virtuosité, ça peut être autre chose que ce qu'on croit, voire même l'inverse de ce qu'on croit. Et on a développé un sous-thème, puisque nos thèmes sont organisés ensuite en sous-thèmes, pour que tout ça soit un peu problématisé, si vous voulez, au niveau intellectuel. Mais l'un des sous-thèmes,
c'est sur l'universitaire.
Voilà, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'un centre de recherche dans tout cela. Nous avons un sous-thème sur l'art du chant français. Alors évidemment, la virtuosité, on s'attend toujours à la pyrotechnie des soprano coloratures qui vont chanter les airs de Lacmé ou d'Ophélie dans Hamlet d'Ambroise Thomas. Mais finalement, au XIXe siècle, la virtuosité vocale, c'est aussi ce qu'on appelait le chant de force, c'est-à-dire les grands sopranos dramatiques qui ne font pas une vocalise parce que les volumes vocaux ne permettent même plus aux voix de vocaliser. Mais finalement, ce chant qui est mis en place à l'époque de Gluck, c'est pour une chanteuse qui se retrouve à s'époumoner dans du Meyerbeer et du Halévy, c'est pas moins compliqué. Je pense même que ça l'est plus, ou en termes de fatigue vocale, bien plus que de chanter les coloratours d'un air de Lacmé. Et finalement, essayer d'expliquer aux gens que la virtuosité vocale, c'est ça peut aussi être tout l'inverse des vocalises, mais ça peut être justement ce grand chant qui a inspiré Wagner et Verdi lorsqu'ils sont venus à Paris, c'est une autre forme de virtuosité. Alors, j'entre pas dans tous les détails, mais si vous voulez, ce festival est intitulé Virtuosité au pluriel, parce que l'idée, c'est de montrer que la virtuosité, c'est ce qu'on croit connaître, et effectivement, il y a des choses à entendre, mais c'est aussi, et ça peut être aussi tout l'inverse si on l'envisage d'une autre manière.
Donc, comme je disais sur l'aspect programme, les gens pourront toujours se connecter sur le site pour avoir le détail. Est-ce que vous, à titre personnel, dans cette vaste programmation de ce festival, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous tient particulièrement à cœur, vous voudriez évoquer, connu ou moins, je ne sais pas, peut-être.
Alors, il y a plusieurs programmes. Il y a un programme justement avec Véronique Gens, Les Talents Lyriques, Christophe Rousset, qui, Tragédienne Romantique, qui est la suite d'une série de disques qu'ils avaient commencé. D'ailleurs, c'est à l'heure où je vous parle, c'est en train d'être enregistré à l'IRCAM aujourd'hui même. Et c'est donc tout un programme qui couvre une période très large de Gluck à Verdi, puisqu'on termine avec quand même Don Carlo de Verdi, ça va être une grande affaire pour les talents lyriques, et dans lesquels il y a des extraits extrêmement intéressants d'Astyanax de Kreutzer, de Thésée de Gossec, d'Ariodante de Méhul, donc surtout de l'opéra révolutionnaire et du Premier Empire. Il y a des œuvres fantastiques qui seront données en concert plusieurs fois à Lucerne, à Aix, à Venise, à l'Opéra Comique à Paris pour un récital au mois d'avril prochain, je crois. Et puis, il y a un programme qui me tient particulièrement à cœur avec un ensemble italien, I Virtuosi delle Muse, qui va se consacrer à un programme fin 18e siècle, Louis XVI Marie-Antoinette, autour des airs d'opéra avec instruments concertants. Un peu sur le modèle du grand air de Constance dans L'Enlèvement au Sérail. Mais en France, on a beaucoup développé cette écriture concertante parce qu'il y avait à Paris des solistes de premier plan, notamment au concert spirituel. Et donc, les opéras de Vienne, de Dalayrac, de Solier, de Gaveau, utilisent beaucoup d'écriture avec une chanteuse à coloratours et cinq ou six instruments concertants qui l'enveloppent de leur virtuosité, on va dire. Et donc là, c'est tout un programme qui va donner lieu d'ailleurs à un disque ensuite qui aura lieu, je crois, le 17 novembre à Venise, mais qui sera le 15 novembre à Versailles, par exemple, pour ceux qui voudraient l'entendre en France, en région parisienne.
Tout à l'heure, le nom peu connu du thème du deuxième festival, Théodore Dubois, avec l'intitulé exact étant Théodore Dubois et l'art officiel, donc qui aura lieu du 14 avril au 27 mai. Donc vous avez un peu donné quelques petites pistes par rapport justement à cette personnalité. Comment, quand on a quelqu'un de quasiment obscur ou voire inconnu, on construit justement un programme musical?
Alors d'abord, on profite en 2012 de deux anniversaires commémorations. C'est d'une part Debussy et l'autre part Massenet, puisqu'on fêtera le centenaire de la mort de Massenet. Massenet étant plutôt art officiel et Debussy la modernité. Donc on peut déjà imaginer tout un programme, et c'est le cas dans la majorité des concerts qui va mesurer Dubois et l'art officiel à la modernité de son époque, et en particulier à la figure de Debussy. Par ailleurs, Dubois et l'art officiel sous-entend qu'on ne va pas s'intéresser qu'à Théodore Dubois, mais bien sûr qu'on va le recontextualiser systématiquement. On a très peu de concerts tout Théodore Dubois. Et c'est l'occasion finalement de faire entendre toutes les écoles de cette époque, puisqu'il y a d'une part le conservatoire, dont Dubois était un grand représentant, la Schola Cantorum, et là c'est des compositeurs comme Dindy justement, ou ce fameux Fernand Latombelle dont je vous parlais tout à l'heure, dont on entendra quelques pièces magistrale à mon avis à cette occasion. Et puis la troisième école qui n'est pas très structurée à l'époque du Dubois, c'est celle généralement de la modernité, qui donnera plus tard naissance à la société de musique indépendante. Mais on a donc trois écoles françaises à ce moment-là, et l'idée c'est de les confronter dans ce festival Théodore Dubois. Alors Céline, je dois vous dire que les deux personnes au Palazzo chargées de la diffusion des concerts, de manière absolument inattendue et j'allais dire même spectaculaire, ont conclu de leur travail d'une année qu'il était plus facile de persuader les festivals, nos festivals partenaires ou d'autres, de reprendre nos concerts Théodore Dubois que les concerts Virtuosité. Et donc sur les 297 concerts dont je vous parlais tout à l'heure, il y a plus de la moitié qui sont des concerts en tournée de Dubois et non pas de la Virtuosité. C'est-à-dire que c'est ça qui a intéressé les programmateurs, c'est plutôt bon signe, je trouve.
Est-ce qu'à première vue, ce cycle va engendrer des enregistrements de sa musique?
Alors on a déjà...
Légion, j'imagine, pour l'instant.
Alors il y a déjà quelques enregistrements parus, dont une partie avec le Palazzetto. Des enregistrements sont en cours et vont sortir avant le festival. Certains justement sont déjà en boîte mais attendent le mois d'avril pour paraître. Et puis nous profitons du festival pour en publier d'autres. Il est actuellement prévu, si je ne me trompe pas, 17 disques Théodore Dubois chez 12 labels différents qui seront disponibles à partir de septembre 2012. Alors je dois vous préciser que les festivals à Venise, vous donniez les dates tout à l'heure, sont organisés en automne, hiver, printemps, mais la reprise ou l'anticipation de ces concerts à l'international fait que finalement le festival Dubois a déjà commencé. Hier soir par exemple, je sais qu'il y avait un concert de Motet à Albi, et dans les choses assez importantes, dans quelques jours, le 14 juillet au festival de Radio France et Montpellier, il y a le grand oratorio Le Paradis Perdu de Théodore Dubois qui va être donné par les Cris de Paris et les Siècles, finalement on va déjà entendre du Dubois en diffusion, j'allais dire, dès à présent. Alors, je peux attirer peut-être les auditeurs sur France Musique. Le Paradis Perdu sera rediffusé le lundi 18 juillet à 9h05, très précisément. Donc, si vous ne pouvez pas être à Montpellier, vous pourrez peut-être entendre cet oratorio à cette heure-là sur France Musique.
Le Salon Romantique, donc enfin, troisième axe de la programmation musicale du 4 au 28 février. Parlez-nous un peu de ce Salon Romantique pour 2011-2012.
Alors, le Salon Romantique, finalement, tous les ans, a ses moments forts en termes de redécouverte. Là, notamment, je crois qu'un des premiers concerts, sinon le premier, il me semble que c'est le premier d'ailleurs, va vous permettre d'entendre des cantates du Prix de Rome dans la version piano. C'est ce que le jury entendait, donc sans orchestre, avec des 5 chanteurs. Et là, on va entendre des compositeurs, vous me permettrez de les égrener, il n'y en a que 4, hein, mais c'est quand même Paul Ilmacher, Max Dolon, Georges Hu et André Wormser dans les cantates Judith Clytemnestre, Frédégonde, et la quatrième m'échappe, mais je ne sais plus, mais peu importe. ces œuvres sont quand même des choses qu'on n'a jamais entendues depuis les années 1870-80 pour certaines, et sont des raretés absolues. Là, tout le concert est consacré vraiment à de la redécouverte vraiment expérimentale. Et je vous précise que ce Salon Romantique, justement parce qu'il a lieu en majorité dans la petite salle du Palazzetto, qui est à peu près forcément pleine, même pour des programmes risqués, permet justement toutes les expérimentations. C'est là qu'on a fait l'année dernière un concert en février dernier. Justement, c'est pas que je sois monomaniaque, mais bon, c'était le cas et ça a été réussi particulièrement. Un concert Fernand de Latombelle complètement consacré au compositeur, qui était plein à craquer. Et si vous voulez, je me rappelle, et toute l'équipe du Palazzetto était dans la salle, d'une lévitation dans le mouvement lent du trio avec piano, où finalement tout le monde est sorti de là en se disant que si on avait entendu du Brahms ou du Schumann, ça n'aurait pas été plus captivant pour l'auditoire et pour nous-mêmes. Et ça nous encourage, ce Salon Romantique expérimental, à vraiment tenter, là, dans ce festival-là, toutes les folies, j'allais dire, en termes de programmation. C'est vrai que quand on est à la Fenice, quand on est, si dans une salle parisienne, au Théâtre des Champs-Élysées ou ailleurs, Il y a des risques qu'on peut prendre, mais on sait que si on veut avoir un minimum de remplissage, il va falloir mettre un peu de Bizet et un peu de Berlioz sur les fiches.
Une soirée du bois à sol risque d'être un peu suicidaire,
voilà.
Malheureusement.
Voilà.
Quel bilan vous tirez un peu des deux premières saisons de la Fondation par rapport, j'imagine, évidemment, quand on démarre, des objectifs à titre personnel, à titre de la Fondation, poser les marques, des moyens qui permettent justement quand même d'avoir une ampleur et un décollage assez impressionnant. Rétrospectivement, comment vous voyez ces deux premières saisons?
J'ai énormément de satisfaction de me rendre compte qu'effectivement, je sais que nous avons certains moyens, qu'un projet comme celui-là va faire parler lui par principe avant même qu'on s'intéresse au fond des choses, mais que je crois que finalement, si les gens qui parlent ou qui ont repéré l'existence du Palazzetto l'ont repéré avant tout, ou en tout cas aussi et beaucoup, pour le contenu de ce que nous produisons. Donc si vous voulez, ma première satisfaction et ma première conclusion, c'est de me dire que c'est le fond des choses qui intéresse les gens, autant finalement que le principe d'un palais à Venise et d'une mécène qui propose de soutenir ce répertoire. La deuxième chose, c'est que le démarrage s'est fait, à mon sens, beaucoup plus rapidement que prévu. Alors on n'est pas dépassé par les événements, mais parfois, notre éditeur pour les partitions d'orchestre est à cran, parce que quand on nous demande de faire des opéras où il faut tout faire, les matériels d'orchestre, etc. La Sémiramis de Charles-Simon Cattel à Montpellier dans quelques semaines, c'est une affaire en termes de papier, ne serait-ce que ça. Mais si vous voulez, je me rends compte que les demandes affluent, et que le projet fonctionne, que les artistes nous prennent très au sérieux. Et puis l'autre satisfaction, et c'est toujours le danger quand vous êtes une fondation privée où finalement on vous regarde avec un dollar au coin de l'œil, c'est que les gens viennent, 99% des gens qui s'adressent à nous le font pour le fond des choses et avec un vrai intérêt pour leur répertoire et ne viennent pas nous voir simplement dans l'espoir d'avoir un cachet supplémentaire ou un soutien financier pour quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Alors je vous précise quand même, enfin vous vous en douterez qu'on réussit j'espère à être attentif à ce qu'on soutient et à nos collaborations. L'idée n'est pas de faire pour faire. Quand on dit 297 concerts, on pourrait avoir l'impression que c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres pour s'associer à n'importe quoi. On estime qu'il est important que le logo du Palazzetto soit associé à des choses vraiment intéressantes. Mais cela dit, vous me permettrez juste d'ajouter qu'en même temps, Madame Bru et toute l'équipe du Palazzo ne souhaitent pas qu'il s'agisse d'un projet élitiste. Et on n'est pas associé uniquement à Covent Garden, Metropolitan Opera et Théâtre des Champs-Élysées. Pour nous, c'est aussi important de pouvoir toucher une église sicilienne de 20 personnes au fond de la province italienne pour un festival d'été que d'être au festival d'Aix, de Lucerne, de Radio France et Montpellier. Et donc, effectivement, dans notre page partenaire, on pourra s'étonner d'avoir l'un en dessous de l'autre des lieux très divers en termes de notoriété.
Parlez-nous un peu justement de l'aspect édition. Vous avez parlé de partition. Vous travaillez donc principalement avec Symétrie, les excellentes éditions Symétrie basées à Lyon, je crois.
C'est ça.
Comment se fait justement le choix des thématiques? Vous avez, je crois, vous planché sur Hérold en Italie, sur le concours du prix de Rome 1803-1968. Est-ce qu'il y a un rythme régulier? S'il y a des programmes, comment se fait justement cette construction éditoriale?
Alors Symétrie a été vraiment une maison d'édition très réactive. Et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, parce que si vous voulez, c'est une petite maison d'édition, sauf qu'à force de dire qu'elle est petite, elle l'est de moins en moins, et je m'en félicite pour eux. Disons que Symétrie a notamment sur notre année de lancement joué le jeu d'un rythme éditorial extrêmement soutenu, ce qui fait que déjà au bout d'un an et demi d'ouverture, puisqu'on a ouvert qu'en octobre 2009, on a déjà une collection de livres qui m'impressionne moi-même et je me dis que tout le monde a bien travaillé, mais Symétrie peut-être encore mieux que les autres. Maintenant, le rythme, si vous voulez, se fait. Je ne vais pas dire qu'il s'est ralenti, mais si vous voulez, essayer de prendre un rythme de croisière qui soit tenable sur la longue durée. Étant entendu aussi que faire trop de choses, finalement, nuit aux objets. Hein. Si vous sortez deux livres en même temps, finalement, on parlera un peu des deux, mais pas beaucoup de chacun. Par ailleurs, donc à côté des livres, on a toutes ces partitions. Et c'est vrai, je dois dire que là, la chose qui reste à faire évoluer pour nous, c'est les partitions, puisque bien sûr, à terme, il faut que nous publions en tant que centre de recherche des éditions monumentales, critiques, etc. Mais pour le moment, nous avons tellement de demandes en termes de matériel d'orchestre pour des grosses symphonies, des opéras, des oratorios, que notre préoccupation elle est surtout de faire des matériels efficaces pour l'utilisation par les musiciens. Et donc, c'est vrai qu'il nous faut encore quelques années, je pense, pour prendre un peu de recul, pour nous reposer sur des séries stables de musique de chambre notamment, que nous ne développons pas pour le moment.
Comment, pour finir un peu notre entretien, alors là, ce serait des questions peut-être plus personnelles, vous êtes clarinettiste notamment, musicologie, vous occupez de tout ça, comment on arrive un peu à gérer finalement ce côté un peu à 360, une activité à 360 degrés, même si évidemment on reste toujours dans la musique, développer une politique de concert, développer une politique de recherche, personnellement, comment tout ça dans votre culture et dans l'évolution de ce que représente la musique pour vous, comment on vit tous ces trois années et cette expérience de la Fondation ?
Puisque c'est une question personnelle, je vais répondre très personnellement.
Mais
si vous voulez,
but, ouais.
J'ai quand même, vous parliez d'une situation paradisiaque tout à l'heure et je vous répondais que c'en était une au niveau de la ville, mais aussi au niveau du projet. En fait, ce projet me correspond de manière absolument inimaginable à l'origine, puisque j'ai jamais été un grand instrumentiste et je ne me suis jamais destiné à une carrière d'instrumentiste, mais lorsque j'ai eu l'occasion de faire des concerts jusqu'il y a quelques années, ça a toujours été pour jouer des répertoires rares. J'ai toujours eu ce plaisir immédiat, si vous voulez, quand une chose n'est pas connue, je la trouve forcément plus intéressante que du Mozart ou du Beethoven. Ça en devient même d'ailleurs une espèce de petite maladie dont il faut que je me soigne.
Vous n'êtes pas le seul, je crois, les gens qui vont piocher dans les répertoires oubliés, souvent, voilà. Un peu cette
Mais c'est vrai que, si vous voulez, quand j'étais dans la musicologie pure et dure en université, quand j'ai fait ma thèse à la Sorbonne notamment, j'ai toujours trouvé, et qu'il me pardonne s'il m'écoute, mais que beaucoup de musicologues étaient fermés sur le monde musicologique sans s'ouvrir à la programmation et sans parler aux artistes. Et quand j'étais instrumentiste, j'ai toujours trouvé que mes collègues instrumentistes n'avaient aucune curiosité et finalement tournaient en boucle sur des concertos de Weber ou des quintettes de Brahms et de Mozart. Et finalement, ce projet est fantastique parce que tout en étant directeur scientifique d'une structure qui fait des livres, des partitions et qui suppose qu'on aille en bibliothèque, je suis finalement dans 80% de mon temps, pour ne pas dire 90%, en contact avec des chefs d'orchestre, avec des ensembles, avec des artistes, et donc vraiment dans le milieu concret de la musique. Finalement, pouvoir faire des recherches sur Félicien David ou Hérold et pouvoir la même après-midi entendre ces musiques très bien jouées par des interprètes engagés, pour moi, c'est un rêve. Hier, j'étais justement sur les répétitions avec Véronique Jans et Christophe Rousset en train d'entendre Astyanax de Kreutzer. La semaine dernière, à Bruxelles, avec Hervé Niquet et le Bruxelles Philharmonique, dans La vie du poète de Charpentier. La semaine prochaine, dans Le paradis perdu de Théodore Dubois. Et dans deux semaines, dans Sémiramis de Cattel. Tout ça avec des voyages. Et ça, c'est un autre pan de mon métier qui est fantastique. C'est d'être un petit peu toujours à vivre dans sa valise. Je ne vis pas aux quatre coins du monde, mais en tout cas, pour le moment, aux quatre coins de l'Europe. Et c'est vrai que tous les matins en me levant, je mesure ma chance et je me dis que ça ne durera pas parce que c'est trop beau cette affaire-là.
Est-ce qu'on peut avoir déjà peut-être quelques indices par rapport au projet des années, des saisons futures en termes, peut-être des choses qui sont peut-être pas encore réalisées, mais que vous aimeriez justement que ça soit par rapport à des compositeurs ou par rapport à des thématiques de programmes ?
Écoutez, je pense que la période qui reste vraiment à revaloriser, c'est celle finalement du premier 19e siècle, c'est grosso modo les années 1780-1815, et notamment tout le répertoire lyrique de ces années-là. Donc oui, quelques rêves, c'est les Bayadères de Cattel, c'est Phèdre de Lemoine, c'est Médée à Corinthe de Fontenelle, c'est Astyanax de Kreutzer, par exemple. Et ne souriez pas, s'il vous plaît. Sinon, je vous ai beaucoup parlé de Félicien David, donc vous avez dû comprendre que pour la saison 13-14, on allait dans ces directions-là. Et puis, j'espère qu'un jour le Palazzetto aura une assez grande notoriété pour que de très grandes maisons d'opéra lui fassent confiance et puissent investir des budgets importants dans des super productions du type Roland à Roncevaux de Mermet ou Bérénice d'Albéric Magnard, enfin si vous voulez des œuvres, des grands opéras français qui sont, comme on dit avec un peu de dédain, de la grosse cavalerie, mais qui, si c'est bien joué, bien interprété, peuvent à mon avis révéler des choses insoupçonnées pour les oreilles d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Alexandre Dradvicki.
Merci à vous. Thank you.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.